quels sont les rapports de Léonard et de Michel-Ange ?
Bien, les rapports sont fondamentaux, ils sont contemporains et sont deux des plus grands inventeurs de la Renaissance. Et ces rapports, si on en croit toutes les anecdotes biographiques, ont été très mauvais. Très mauvais parce que autant Léonard était gracieux, majestueux, mystérieux, autant Michel-Ange, avec son nez cassé et son sale caractère, était disgracieux et, comme le dit Ludovico Dolce, quelques années plus tard, ne peint que des faquins, alors que Léonard ne représente que des gentilshommes. Bon, mais ça, c'est l'anecdote, de même que toutes les réflexions qui se seraient échangées et le degré de vérité historique de l'anecdote, bon, j'en doute fortement. Je pense que c'est le plaisir du romancier que de pouvoir, à partir de là, construire des biographies et faire une belle histoire. Et c'est passionnant, j'adore ce genre d'histoire. Cela dit, si je pense que ces anecdotes sont bien souvent construites après coup, elles sont construites pour rendre compte de quelque chose de bien réel, et qui est la contemporanéité et la complémentarité des deux opposés, Michel-Ange et Léonard. Et il y a un moment, une date et un lieu très précis où ces complémentarités opposées se rencontrent, c'est le Palazzo Vecchio, au moment du grand concours qui met face à face, mais ils doivent peindre tous les deux en même temps, sur deux murs de Palazzo Vecchio, de la grande salle Palazzo Vecchio, des scènes de bataille à la gloire de la ville de Florence. Et le choix des deux moments par les deux artistes est tout à fait remarquable, parce que Léonard de Vinci choisit, il nous reste dessin préparatoire, plus une copie par Rubens du dessin préparatoire, la bataille pour l'étendard, c'est-à-dire le comble de la lutte, du chaos des passions humaines autour du symbole de la victoire, et c'est le cœur de la bataille. On sait qu'il avait conçu autour un immense paysage avec des groupes venant vers la bataille et toute cette énergie universelle se condensant dans le chaos central du groupe de la bataille de l'étendard. Et Michel-Ange en face avait bien sûr pensé tout à fait le contraire. Il prend les combattants au moment où ils rassemblent leur énergie avant de se battre. C'est la bataille de Cascina où on voit les Florentins surpris et s'habillant alors qu'ils étaient au bain. Rien que le choix de ces deux moments révèle bien la différence de la conception des artistes. Pour ce qui compte pour Michel-Ange, c'est l'énergie humaine en tant qu'elle se concentre pour atteindre son but, et c'est cette énergie spirituelle qui intéresse Michel-Ange. Ce qui intéresse Léonard, c'est le spectacle du chaos qui prend sens. Et la bataille d'Angari représente ce chaos prenant sens autour de l'étendard. Par ailleurs, aucune des deux œuvres n'a finalement été finie, mais celle de Léonard, même si elle avait été finie, n'aurait pas tenu parce qu'elle s'est détruite déjà en cours de création, car la recherche technique qu'il avait faite pour cette fresque, en cherchant à renouveler la technique même de la fresque, faisait que l'œuvre ne pouvait pas tenir de toute façon.
La peinture coule.
La peinture coule en quel sens coule, ça... C-O-O-L. La peinture non. Coule ou la peinture a coulé.
Enfin, a coulé.
Oui, c'est ça.
elle s'écoule.
Voilà. Elle s'est défaite. Elle se défaisait parce qu'il a recherché une technique de fresque complètement inadéquate. Sa recherche l'a abouti à un échec. Et la peinture, il est parti à Rome après cet échec.
Voilà comment Leonardo décrit le moment où il commence cette bataille. Et vous allez voir qu'il y a presque une superstition des éléments et de la situation dans laquelle il se trouve au moment où il réalise une œuvre. Il écrit « Le vendredi 6 juin 1505, sur le coup de 16 heures, j'ai commencé la peinture du vieux palais. » Il s'agit de la bataille d'Andegari. « Au moment où je donnais le premier coup de pinceau, le temps se gâta. » Le tocsin sonna pour appeler les gens à se rassembler. Le carton se déchira, l'eau se renversa et le vase d'eau qu'on apportait se brisa. Brusquement, le temps aussi ainsi gâté, ce fut la pluie en grande abondance jusqu'au soir avec un jour sombre comme la nuit. Moi, je trouve que c'est une description tout à fait extraordinaire parce qu'on a l'impression qu'il est là.
Il y a un plaisir aussi à voir la chose se détruire, se défaire, non ?
Je ne sais pas. Moi, je dirais que ça va un tout petit peu plus loin. C'est une sorte de désespoir stoïque.
Rosenberg.
Ce qui qui est très troublant, évidemment, c'est Raphaël, à la même époque, qui, lui, cherche la perfection et l'obtient, et la conquiert, sans pour autant qu'on s'en rende compte. Ce qui est extraordinaire chez Raphaël, c'est qu'on ne sent pas l'effort. Tout vient tout seul, la perfection est absolue, mais l'effort pour la conquérir n'est jamais perceptible. C'est extraordinaire à cet égard, et je crois que les gens du passé n'avaient pas tort en le considérant comme le plus grand artiste de tous les temps, car il avait justement cette espèce de don à la fois de trouver les solutions les plus merveilleuses, les plus convaincantes, sans que pour ailleurs on sente la conquête de ces solutions. Chez Léonard de Vinci, on sent qu'au contraire, la perfection, il la sait inatteignable, et que par conséquent, il la fuit, et qu'il y a toujours une espèce de fuite en avant, une espèce de volonté de fuir à tout ce qui fermerait le tableau et qui limiterait le monde de l'œuvre d'art aux quatre dimensions, enfin, à la surface de la toile ou du bois. Et ça, évidemment, c'est très grand chez Léonard, mais en même temps, ça donne un sentiment d'insatisfaction, et ça ne donne pas ce sentiment de plénitude et de joie que donnent les tableaux de Raphaël. Ça donne un sentiment d'inquiétude, et peut-être peut-on aujourd'hui préférer l'inquiétude à la plénitude et à la joie. Le passé a préféré la plénitude de Raphaël. C'est un peintre dont la gloire est récente. Non pas qu'il ait été inconnu autrefois, loin s'en faut, mais si on avait posé au XVIIIe siècle la question de savoir quels étaient les grands peintres de la Renaissance italienne, il y aurait eu comme aujourd'hui Raphaël, il y aurait eu comme aujourd'hui Michel-Ange, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait eu Léonard de Vinci, il y aurait eu plutôt Corrège. Alors Léonard est devenu extraordinairement populaire au XIXe siècle, et la Joconde est devenue l'espèce d'icône, de vedette absolue du Louvre, de tableau qui n'en est plus un, au point que nous ne savons pas comment traiter de sa présentation.